Cité Addict, votre rendez-vous santé sur Radio Cité Genève. Sophie Nicole, Gilles Miello.
Les ados, cette tranche sensible, 12-15 ans, cet âge difficile, et puis ces relations parents-enfants compliquées. On a évoqué déjà au cours de ces deux précédentes émissions quelles étaient peut-être les différentes pathologies des enfants, qu'est-ce qu'ils pouvaient rencontrer comme danger principalement, et la communication aussi avec les parents qui est très importante, mais dans quelle mesure, dans quels moyens, comment faire avec vous, Gisèle Georges, pédopsychiatre, bonjour.
Bonjour.
Sophie Nicole, directrice de la clinique Bellement et psychologue, bonjour.
Bonjour.
Gisèle Georges, la communication parents-ados est essentielle. Certains parents estiment en tout cas ou font tout pour être le plus cool possible. Qu'est-ce que ça veut dire un parent cool? C'est quoi être un parent cool? C'est quoi le bon dosage?
Sévère mais juste. Ça, c'est la définition que tous les gamins me donnent, c'est sévère mais juste. Autrement dit, c'est un parent qui est capable de souligner quand l'enfant fait quelque chose de bien. Tiens, ça me fait très plaisir, tu m'as aidé à mettre la table, ça me fait très plaisir d'avoir discuté avec toi, ça me fait très plaisir d'avoir été au ciné avec toi, j'ai adoré faire du shopping, j'aime bien ton avis. Voilà, savoir pointer ce que l'enfant sait faire de bien, au lieu de penser que c'est normal, et ne pointer que ce qui va pas. Si vous passez l'habitude de pointer ce qui va bien, l'enfant, quand après vous allez lui dire « Non, alors là, sur ce coup-là, je suis pas du tout d'accord », vous allez passer pour sévère, mais juste puisque vous savez pointer ce qui va et ce qui va pas.
Et ça, c'est pas toujours facile, Sophie Nicole, quand effectivement on rentre du travail parfois peut-être un peu stressé, tardivement aussi, et où en l'espace de 2 minutes 12, on arrive à plus ou moins savoir quelles ont été les notes, consultables d'ailleurs maintenant plus ou moins sur Internet, mais savoir un peu ce qui s'est passé dans la journée de l'enfant au niveau de l'école. Et c'est pas facile aussi d'entretenir ensuite d'autres sujets, comme on l'avait dit autour de la table notamment. C'est pas simple quand même de trouver le bon moment.
Non, c'est pas simple. Et puis surtout, pour beaucoup de parents, il y a cette notion, voilà, je dois être un cadre, je dois être la sécurité, je dois driver mon gamin. Et du coup, effectivement, on oublie tout cet aspect de relever tout ce qu'il y a de positif chez son gamin. C'est très, très important, effectivement, de lui dire que c'est super agréable d'être là avec lui et que c'était très sympa, cette petite conversation, et que c'est beaucoup plus sympa si on met la table ensemble. Ça me fait plaisir, ça me fait du bien. J'aime quand t'es là. J'aime ce partage avec toi. Relever tous ces points, relever que c'est sympa d'avoir pris le temps de me parler, que tu avais eu une difficulté avec cette note-là. Merci de l'avoir fait plutôt que je doive le découvrir tout seul. Souligner la qualité de la relation, partir du principe que rien n'est normal, que tout se fait parce que tous les deux, on s'engage à ce que ça puisse être possible. C'est très, très important et ça va vraiment aider votre gamin à pouvoir accueillir aussi les moments où il doit accepter d'entendre des choses qui sont plus désagréables.
Bravo, je suis fier de toi. Tu as fait moins de 10 fautes dans ton statut Facebook. Bravo, par exemple, ce genre de choses, tout de suite valorisante, immédiatement.
Vous rigolez, mais c'est un peu ce que je fais faire, par exemple, à des enfants qui sont dyslexiques. Quand ils ont... ils font 40 fautes, ils ont 0. Très bien. Quand ils font plus que 20 fautes, ils ont toujours 0. Mais passer de 40 fautes à 20 fautes, quand je suis dyslexique, c'est un énorme travail. Donc oui, c'est de pointer ça en disant, écoute, tu fais 20 fautes de moins, je suis très fière de toi. Et au lieu de discuter des notes et en essayant de comprendre pourquoi il y a eu une mauvaise note, c'est d'essayer de prendre toutes les notes et de dire qu'est-ce qu'on fait pour avoir... telle note. Comment on arrive à avoir, je sais pas moi, un 12 en histoire? On écoute sa leçon. On peut même, moi j'aime bien faire ce qu'on appelle le cahier de la réussite, c'est-à-dire des fiches pratiques sur comment réussir matière par matière, des stratégies, un peu comme quand on apprend la bicyclette. Il y a des stratégies d'apprentissage de la bicyclette et des stratégies pour éviter de tomber.
Il y a la pente.
Il y a la pente et c'est pas mal d'utiliser le frein et lequel? Plutôt celui de droite, celui de gauche, la vitesse qu'on prend. Là, c'est pareil, de prendre plutôt comment marche une bicyclette. Et puis, si à un moment, il y a une mauvaise note, on va regarder et puis on va dire, ça, c'était prévu que ça devait marcher comme ça. Qu'est-ce qui n'a pas été fait? On s'aperçoit, par exemple, que un enfant qui ne fait que du par cœur et tout d'un coup, on lui a demandé de résumer ou de synthétiser. Et là, il dit, j'ai fait du par cœur et je ne sais pas résumer et synthétiser. Et là, au lieu de se dire tout de suite, oui, il n'a pas assez travaillé ou je ne sais pas quoi, de réaliser quelle est la stratégie qui pose problème à l'enfant et de l'aider à travailler sur le résumé, la synthèse. On s'en moque de la note. Ce qui est important, c'est que l'enfant puisse trouver des stratégies pour s'adapter au fur et à mesure. Donc, plus on part des stratégies positives, plus on peut avancer.
On fustige souvent un peu les réseaux sociaux, Internet, Facebook et autres, Skype, etc., etc. Est-ce que véritablement cela constitue un danger ? Est-ce qu'il faut laisser les enfants aller à petite dose sur ces sites ? C'est quoi le bon dosage, encore une fois ? Ne pas leur interdire une technologie que leurs copains maîtrisent et pas eux ? Ne pas non plus les mettre un peu à l'écart de tout cela ? Gisèle Georges, c'est quoi la bonne façon de procéder ?
Alors, tous ces réseaux, tout le smartphone, enfin tout ce que vous voulez, tout ça, c'est leur génération. Donc, il n'y a pas de raison de leur interdire.
On a souvent parlé aussi du débat sur l'âge à partir duquel on peut véritablement, raisonnablement donner ou laisser un enfant avoir un smartphone. Certains parents s'y opposent, mais ça devient de plus en plus difficile parce que l'enfant est stigmatisé, parce qu'il finit par être le seul à ne pas en avoir un. Là aussi, c'est difficile pour les parents de trouver le bon dosage, de ne pas mettre son enfant à l'écart, mais en même temps de le protéger.
Alors ça, je fais appel au bon sens des parents et il faut qu'ils continuent à faire appel à leur bon sens. Les meilleurs acteurs de soins et d'éducation des enfants, ça reste les parents. C'est-à-dire qu'un parent sent très bien quand un enfant commence à être capable d'utiliser un smartphone ou pas, et que à ce moment-là, il peut très bien prendre la décision de l'acheter, mais de l'acheter avec lui et de lui montrer comment ça marche. Là encore, l'aspect positif du smartphone et quelles sont les dérives à ne pas aller. Ça s'appelle de l'information. C'est comme apprendre la bicyclette. Je veux dire, on sait très bien qu'on peut tomber et même se faire très mal en bicyclette. Ça n'empêche qu'on apprend. À un moment, on se dit, tiens, mon enfant, il est capable d'apprendre la bicyclette, je vais lui apprendre. Il est capable d'apprendre à nager, je vais lui apprendre. C'est quand même pas tout à fait inné, tout ça, chez l'humain. Et bien, pourtant, on le fait. Ça s'appelle de la transmission parentale. Tout d'un coup, on sait, on sent que l'enfant est capable, mais on va lui apprendre le positif pour y arriver. Et puis, quand il va y avoir des échecs et des dangers, lui apprendre aussi les échecs et les dangers.
Donc, ne pas avoir peur des nouveaux outils technologiques, ne pas avoir peur du portable à l'école, par exemple, où là, ça échappe à notre contrôle. Hein, dans la cour de récré, en général, il peut s'échanger n'importe quoi, on ne le sait pas forcément.
Si on a peur, on ne va pas en parler, ça va être tabou, et là, on va fermer l'adolescent. Moi, je préfère qu'on en parle, qu'on dise « j'en ai peur, voilà ce qui me fait peur, voilà ce que j'aime dans le portable, et voilà ce qui me fait peur », de telle manière que l'enfant sait qu'on peut en parler, et s'il se passe des choses dans la cour de récréation, l'enfant va venir raconter.
C'est aussi simple que ça, Sophie Nicole.
Absolument. Totalement, je suis totalement convaincue par ça. Effectivement, plus je libère la parole, plus je partage, plus j'ose, et plus mon gamin sera d'accord de partager avec moi, de m'informer. Et je pense que c'est très important en tant que parent de pouvoir exprimer ses peurs, dire d'un côté, je trouve ça super que tu aies un téléphone parce que à quelque part, ça me rassure. Si j'ai besoin de toi, je peux t'appeler, je saurai où te trouver. Et puis en même temps, c'est vrai que ça me fait flipper parce que je pense à ces histoires que vous filmez, que vous vous envoyez entre vous. Est-ce que c'est un truc que tu as déjà vécu ? Est-ce que c'est déjà arrivé ? Est-ce que ça te fait flipper, ces histoires de harcèlement sur Facebook ? Est-ce que tu as déjà des copines à qui c'est arrivé ? Est-ce que c'est qu'un truc qu'on entend comme ça ? Et petit à petit, votre gamin va vous donner de l'info et puis vous allez pouvoir partager et puis lui demander aussi, toi, ça te fait flipper aussi ou bien c'est que moi qui me fais des films. Et c'est important de pouvoir laisser l'espace à nos enfants aussi, de pouvoir nous rassurer et de croire en eux parce que c'est important quand votre enfant sent que vous le croyez, c'est plus agréable pour lui de vous dire les choses. Tandis que s'il doit avoir peur de vous les dire parce qu'il a peur de votre réaction, du jugement ou du fait que vous allez tout de suite être un peu cynique ou cassant, c'est clair que votre gamin va se taire.
C'est ça, on disait tout à l'heure, hein, les parents cool, savoir aussi bien amorcer la communication, c'est pas toujours simple.
C'est pas amorcer la communication, c'est informer. Je pensais aux réseaux sociaux. Combien d'enfants comprennent que quand ils sont sur un ordinateur, il y a une adresse ? Qu'en fait, ils donnent leur adresse. Combien d'enfants laissent leur numéro de portable sur un ordinateur ? Combien d'enfants mettent des photos qui sont quand même plus que dangereuses et ils savent pas où elles vont atterrir, ces photos ? Toutes ces informations-là, je dirais que c'est de la santé publique. Il faut informer les enfants. Il faut informer à l'école, il faut informer dans les cours d'informatique et il faut informer à la maison. Il faut arrêter que les parents laissent les enfants tout seuls dans leur chambre avec un ordinateur dont eux-mêmes ne savent pas utiliser comment ça marche et les dangers de cet ordinateur. Quand je dis à un enfant de 12-15 ans de pas laisser le portable, ils disent « Non mais attends, t'inquiète pas, hein, je peux bloquer mes amis, je choisis les amis. » Je dis « Oui, mais quand tu choisis tes amis, eux, ils ont d'autres amis et ces autres amis, est-ce que tu les connais ? Ah ben non. Est-ce que dans la rue, comme ça, tu donnerais ton numéro de portable à n'importe qui ? ou à ton copain ne sachant pas à qui il va donner son numéro de portable. Ah bah non, jamais. Donc, juste les amener à utiliser l'outil comme on leur apprendrait la bicyclette ou la conduite automobile. Il y a un code de la route et il y a des dangers. Mais on doit leur apprendre l'automobile. Et ces outils-là sont leurs outils. C'est quand même hallucinant qu'en 2012, on ne puisse pas dire à un enfant, tu dois aller sur Internet. Ce n'est pas possible. Dans 10 ans, dans 15 ans, il va avoir un métier. S'il ne sait pas utiliser ces outils, il ne pourra jamais trouver de boulot.
Sophie Nicole.
Oui, je pense que c'est très important de réaliser à quel point nos 12-15 ans ont une pression énorme. L'école, c'est très très fatigant, c'est une pression permanente parce qu'il faut d'abord avoir une attitude avec les copains, il faut avoir une attitude avec les profs, il faut être performant, il faut fournir des notes et puis on sait à quel point maintenant, que ce soit en Suisse, en France, on est tout de suite, on nous demande très très vite de choisir une filière. Comment entre 12 et 15 ans, il faut déjà savoir son métier qu'on va faire pendant 40 ans en tant qu'adulte. Waouh, c'est fort. C'est énorme en fait. Et vraiment, nos gamins ont besoin qu'on soit là avec eux parce qu'on peut remarquer actuellement qu'il y a énormément de phobie scolaire qui est en train de se développer. Beaucoup de gamins qui n'osent plus aller à l'école. Les parents ne comprennent pas toujours pourquoi. Et c'est très important de pouvoir verbaliser tout ça, de pouvoir déposer les choses sur la table et de pouvoir accompagner nos gamins. Ils ont besoin de nous.
Quelles sont les raisons, par exemple, qui peuvent pousser à cette phobie scolaire ?
Alors, c'est un terme que j'aime pas beaucoup, la phobie scolaire, parce que ça regroupe beaucoup de choses. La première des raisons, c'est l'anxiété de performance, c'est-à-dire effectivement des enfants qui se mettent une pression telle. En général, c'est très bon, hein, qui arrêtent l'école à cause de ça. Ce sont des enfants qui se mettent, dès qu'ils ont en dessous de 18, c'est impossible pour eux. Donc, s'ils n'ont pas 18, c'est pas possible. Donc, ils se mettent une pression telle qu'ils bossent jusqu'à 2h du matin, ils se lèvent à 5h, et du coup, ils finissent par s'épuiser et ne plus aller à l'école. La deuxième raison, c'est l'anxiété sociale, c'est-à-dire que ce sont des enfants qui ont très très peur des quolibets, très très peur des moqueries, très très peur du slashing ou d'autres perversions et harcèlement moral et violence qui peut se passer à l'école et du coup ils n'y vont plus. La troisième raison, c'est quand ça se passe très très mal au sein de la famille, où il y a soit une famille très pathologique ou une famille où il y a quelqu'un qui est malade au sens organique du terme. Et là, l'enfant ne veut pas quitter sa famille pour la protéger. Donc, c'est les trois raisons qui font qu'un enfant ne va pas à l'école. Mais souvent, les trois raisons sont intriquées. C'est-à-dire que si je veux être très bon à l'école, c'est pour pas que les autres se moquent, c'est pour que les professeurs aient une bonne image de moi et c'est pour pas que mes parents soient déçus.
Est-ce que par rapport à tous ces troubles, tout ce qui fait qu'un enfant se sent mal à l'aise en allant à l'école, est-ce que ça aussi peut conduire et peut engendrer d'autres troubles après, des addictions déjà à cet âge-là, Sophie Nicole ? C'est à partir de là que commencent tous ces troubles ?
Alors, ça peut démarrer par là. Il faut savoir que la problématique des addictions pour les 12-15 ans, ben, c'est souvent l'effet de groupe qui peut jouer parce que à 12-15 ans, on n'a pas l'idée dans la tête de se dire « Ah, je vais aller chercher du produit ». Il a fallu que ça vienne dans le groupe. Et puis effectivement, ben, on en fait l'expérience et puis on voit que magiquement, ça fait descendre la pression. Et le chocolat fait ça, le coca fait ça, la clope fait ça, et puis le pétard fait ça. Et puis du coup, ben, si je ne suis pas accompagnée, si je ne peux pas verbaliser mes émotions, ben, je vais commencer à faire de l'automédication. Et c'est ce qui arrive aujourd'hui. On voit des gamins entre 12 et 15 ans qui se ramènent à 8 heures à l'école et qui sont déjà pétés parce qu'ils ont déjà fumé un pétard ou parce que... Et donc, voilà, oui, il y a l'effet de groupe qui est très important, là.
Et dans l'effet de groupe aussi, on peut rajouter j'ai pas d'amis, j'arrive pas à avoir des amis, j'ai peur des moqueries, donc je reste à la maison et j'ai plein d'amis sur Facebook, j'en ai 2 milliards 500 000. Donc il y a aussi toutes ces addictions-là auxquelles on ne pense pas, mais qui sont les premières qui arrivent aussi du fait des réseaux sociaux.
Le jeu aussi, hein, les jeux sur les ordinateurs, où finalement, je n'arrive pas à partager ma vie avec mes copains, parce que j'arrive pas à trouver ma place, mais dans ce jeu life machin, où je suis le guerrier truc...
Le héros,
là, tout d'un coup, je m'éclate totalement et du coup, bah voilà, je vis dans un univers parallèle.
Gisèle Georges, si on devait un petit peu résumer et donner des conseils aux parents qui nous écoutent pour communiquer, j'allais dire contrôler leurs ados, mais en tout cas entrer en relation un peu plus que ce qu'ils ont le sentiment de le faire parfois et pas toujours à bon escient, Déjà aussi peut-être un peu les rassurer. Quelque part, certains se disent, bon, allez, ça va durer 3-4 ans, et puis après, ça ira mieux. C'est pas forcément la bonne solution non plus. C'est quoi la bonne attitude à avoir quand on est parent? Cool, pas cool, moins cool, peu importe la religion et la façon de voir, mais c'est quoi l'essentiel?
La première chose que je leur dis toujours, c'est se faire confiance en tant que parent. C'est eux qui connaissent le mieux leurs enfants. C'est eux qui sentent s'il est fragile ou pas fragile. Donc, c'est déjà la première chose. La deuxième chose, c'est de communiquer sur tout. Et même si je suis religieuse, la religion n'a jamais empêché de communiquer sur la sexualité. Donc, on peut parler de tout. Plus je parle, plus j'informe. C'est surtout une information. Et donc, là, l'enfant va l'entendre. Plus j'exprime mes émotions, et notamment mes émotions positives par rapport à l'enfant, plus il me parlera. Et puis, bah, quand il a fait une bêtise, je peux montrer que je suis en colère et que je vais sanctionner cette bêtise ou cette erreur, mais que je reprends immédiatement derrière le dialogue. Et puis, il faut accepter une dernière chose, c'est que, oui, on n'est pas de la même génération. Oui, nous, on a beaucoup d'expérientiel, et eux, ils voudraient tout expérimenter. Donc, de temps en temps, on n'est pas tout à fait d'accord. Mais le principal, c'est qu'on le fasse ensemble et qu'on en discute ensemble.
Sophie Nicole.
Oui, je rajouterais qu'il ne faut pas oublier que moi, j'entends beaucoup de parents qui disent « Mais moi, mes enfants, c'est mes bijoux. J'ai envie qu'ils soient bien, j'ai envie qu'ils soient heureux. » Ben voilà, c'est ça. N'oubliez pas qu'on s'aime. N'oubliez pas que vous aimez vos enfants et n'oubliez pas que c'est chouette d'être ensemble et c'est chouette de partager ensemble.
Même si on a le sentiment que c'est à sens unique parfois, en tant que parent.
C'est jamais... Alors, oui, peut-être que ça, c'est le meilleur des conseils. C'est intéressant ce que vous me dites là, parce qu'en fait, les parents prennent au premier degré leur réflexion. « Ouais, tu me fais chier, t'es un vieux con. » Et les parents le prennent au premier degré comme si on attaquait leur personne. Or, les enfants ne le pensent jamais. Ils aiment leurs parents, ils adorent leurs parents. Même des enfants que moi, j'ai vus battus, violentés, vont toujours aimer leurs parents. Ça ne pose aucun problème. Par contre, effectivement, ils vont employer des termes un petit peu qui Titi qui énerve le parent, ils savent très bien appuyer là où ça embête le parent. Donc jamais en faire une affaire personnelle et savoir dire non, parce que un non, même si l'enfant vous jurera que c'est faux, que vous êtes un vieux con, que c'est insupportable que vous ayez dit non, et ben au contraire, ça va le rassurer. C'est-à-dire qu'il va se dire, si je vais trop loin, si je dépasse les limites, je sais que derrière moi, j'ai un garant de ma sécurité qui saura me rattraper par la peau des fesses et me dire « Stop, arrête tes conneries ».
Ça, c'est l'enfant qui le pense. Et même si les parents ne le voient pas, sachez que le message finit toujours par passer d'une manière ou d'une autre. C'est un peu ça.
Toujours.
Aussi.
Je dis toujours ça. On fait toujours comme on... Quand on imagine l'éducation de ses enfants, des fois, on dit « Je ne ferai surtout pas comme mes parents » ou « Je ferai comme mes parents », mais on prend toujours référence sur ses parents.
Merci beaucoup à toutes les deux. Merci Sophie Nicole qui est avec nous chaque semaine. Merci à Gisèle Georges, pédopsychiatre. Merci d'être venue pour cette thématique où il y aura encore beaucoup de choses à dire. Enfants, ados, les 12-15 ans. Merci encore à toutes les deux. Et vous pouvez évidemment réécouter nos émissions sur notre site internet www.radiocité.ch. À la semaine prochaine, Sophie Nicole, pour une nouvelle thématique dans Cité Addict.
Cité Addict, votre rendez-vous santé sur Radio Cité Genève. Sophie Nicole, Gilles Miello.